Le journal Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Hamza, l'enfant de 12 ans retrouvé sain et sauf près de Lens, il avait été enlevé par son père. Le plan alerte enlèvement avait été déclenché ce matin. Un cran de plus après le pass vaccinal qui succède au pass sanitaire, dose de rappel obligatoire pour les soignants et vaccination des 5-11 ans dès mercredi si tout va bien. Le gouvernement veut que les Français se fassent vacciner. Olivier Véran était l'invité ce matin de France Inter. Les précisions de Sandy Dauphin dans un instant. Nouvelle soirée de chaos dans le football hier soir à Charletti lors de la rencontre de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Match arrêté, les supporters lyonnais ont provoqué de graves incidents. Invité de ce journal, Vincent Duluc, éditorialiste au journal L'Équipe, est présent hier soir à Charletti. Dans ce journal également, Christiane Taubira en déplacement à Saint-Denis plaide pour l'union de la gauche et nous irons au Grand Bornand pour la Coupe du Monde de biathlon. La météo, encore un peu de grisaille au nord mais le soleil gagne du terrain. Jean-Michel Golinski à la fin de cette édition. À 13h20, secret d'info. Au programme aujourd'hui, Jacques Monin.
La France prend la présidence de l'Union Européenne le 1er janvier, mais saviez-vous que pour transporter les délégations, Renault et Stellantis vont offrir 220 véhicules électriques, un mécénat qui, pour certaines ONG, s'apparente à un conflit d'intérêts.
Jacques Monin, secret d'info après ce journal.
France Inter.
La propagation de l'épidémie de coronavirus vitesse grand V et le gouvernement qui entend accélérer le calendrier de la troisième dose ou dose de rappel et renforce l'obligation vaccinale à commencer par les soignants et les pompiers. Olivier Véran était l'invité ce matin du 6-9 de France Inter et après l'annonce hier soir du Premier ministre Jean Castex de la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal, le ministre de la Santé ajoute que le gouvernement veut donc que les Français se fassent vacciner. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Olivier Véran annonce ce matin un tour de vis supplémentaire.
Oui, une troisième dose de vaccin sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier. Olivier Véran justifie cette mesure parce que le variant Omicron se propage à grande vitesse.
C'est un virus qui est beaucoup plus contagieux que le variant Delta que nous avions connu. Comprenez-moi, si c'est 10% des cas de variant Omicron aujourd'hui dans notre pays, ça veut dire que la semaine prochaine, c'est 25 ou 30%, et ça veut dire que dans 15 jours, il est majoritaire dans notre pays.
Face aux nouveaux variants, le gouvernement veut donc transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Un projet de loi sera présenté début janvier. Ça veut dire que pour aller dans un bar, un cinéma, au théâtre ou au restaurant, un test Covid négatif ne suffira pas. Il faudra montrer son certificat de vaccination. Cette obligation est aussi envisagée pour les trains. Et puis, faudra-t-il montrer sa pièce d'identité en plus du pass vaccinal? C'est une question qui se pose d'après le ministre de la Santé.
Je pense que dans le débat parlementaire, on peut reposer la question du contrôle d'identité associé au contrôle du pass. Parce qu'il y a des fraudes.
Mais il faut que ça soit légal de vérifier l'identité.
C'est pour ça que ça passe par une loi.
Autre annonce importante ce matin, Sandy, c'est la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. Elle pourrait débuter mercredi prochain.
Oui, cette vaccination pourrait être possible, mais non obligatoire dès mercredi après-midi dans des centres dédiés. Olivier Véran attend les derniers feux verts des autorités sanitaires et les résultats des études menées aux États-Unis.
Le conseil consultatif d'éthique que j'avais saisi a rendu ses conclusions hier. Il nous dit qu'on pourra y aller. La haute autorité de santé va rendre ses conclusions en tout début de semaine et va nous dire vraisemblablement qu'on peut y aller. Et le comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du professeur Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin, après avoir consulté les données américaines en vie réelle, basées sur la vaccination avec rappel de 2 millions d'enfants américains. Et si tout va bien, le 22 après-midi, nous démarrons la vaccination des enfants dans les centres adaptés pour les enfants.
Alors, côté logistique, il faut mobiliser encore plus de monde pour administrer les vaccins. Le gouvernement va faire appel aux Français qui ont un brevet de secourisme. Ils seront payés et formés pour faire des piqûres.
Merci Sandy Dauphin. J'ajoute qu'il n'y aura pas d'autotest gratuit pendant les fêtes. L'assurance maladie ne prendra pas en charge ces tests de dépistage, annonce également ce matin d'Olivier Véran. L'autotest coûte 5,20 €. Je rappelle que les tests PCR ou antigéniques sont gratuits pour les personnes vaccinées. Par ailleurs, la ville de Paris annule le feu d'artifice et les festivités prévues le soir du 31 décembre, notamment sur les Champs-Élysées. Et puis dans un avis publié aujourd'hui, le conseil scientifique estime donc ce matin que des mesures de restrictions significatives doivent pouvoir être prises par les autorités à l'occasion du réveillon, y compris le cas échéant sous forme de limitation d'activités collectives ou de couvre-feu, avec la possibilité d'une déclinaison territoriale face à la menace du variant Omicron. Le jeune Hamza, 12 ans, a été retrouvé sain et sauf. Vous avez entendu ce matin sur nos antennes l'alerte enlèvement déclenchée peu avant 6 heures. Le petit Hamza avait donc été enlevé par son père hier soir et il a été retrouvé ce matin, Laurie Licarive.
Hamza se trouvait chez la sœur de son père à Salomine, près de Lens. Le père qui a été interpellé et placé en garde à vue. Hier soir vers 19h30, cet homme âgé de 40 ans frappe à la porte de la maison de l'assistante maternelle à qui son fils a été confié sur décision de justice 3 jours plus tôt dans le cadre de la séparation de ses parents. Sans qu'il n'ait eu de violence, Hamza l'aurait suivi. Ils sont ensuite montés dans une voiture à un véhicule retrouvé vide un peu plus tard dans la soirée à Hénin-Beaumont. Les autorités craignaient que le père d'Hamza cherche à sortir de France avec son enfant. Selon le parquet de Béthune, il avait été intercepté à l'aéroport il y a quelques semaines. Il s'apprêtait à fuir hors de l'Union européenne alors qu'il avait interdiction d'emmener son fils à l'étranger.
Une candidate de plus à gauche ou une candidate de trop, c'est une chance pour l'Union de la gauche, estime certains. Pour d'autres, c'est non. Christiane Taubira, qui a annoncé hier qu'elle envisageait d'être candidate à l'élection présidentielle, s'est donc rendue ce matin pour un premier dépassement de possible candidate à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Une déambulation autour du marché de Noël et autour de la basilique à la rencontre des gens et des jeunes. Sur place, on retrouve Yannick Falt. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Et Christiane Taubira a un objectif, l'union de la gauche.
Christiane Taubira a clamé dès sa sortie de l'hôtel de ville après un entretien avec le maire socialiste de la ville, Mathieu Hanotin, cohu dans les allées du marché de Noël.
C'est ma présidente. J'espère que la France vous a. Taubira, on t'aime. Moi, je vous aime.
Déambulation difficile, entourée d'une nuée de micros et caméras. Saint-Denis, pas un hasard pour Christiane Taubira. Le choix de la jeunesse et de la mixité, dit-elle. Christiane Taubira, qui explique sortir du bois, non pas pour une candidature, non pas pour la gauche, mais pour le pays, et qui se dit prête à participer à la primaire populaire en janvier.
À la primaire populaire, qui semble le dernier espace où cette union peut se construire. J'ai déjà dit à plusieurs reprises à voix haute tout le bien que je pense de ce processus démocratique et générationnel. Ses fondateurs ont construit la crédibilité du processus. Ils lui ont donné une autonomie. Il appartient justement à ses fondateurs d'en préciser les règles.
Problème à l'exception d'Anne Hidalgo et d'Arnaud Montebourg, les autres candidats de gauche ont pour l'instant opposé une fin de non-recevoir à cette primaire, mais Christiane Taubira promet de tenir bon.
J'ai l'air de quelqu'un qui laisse tomber, moi.
Allez, on va avancer tranquillement, s'il vous plaît, tranquillement.
Je suis vraiment désolée pour la faute.
Voilà, Christiane Taubira ce matin à Saint-Denis avec Yannick Falt et Lucien Lefebvre. Merci à vous deux. Et pendant ce temps, à 8000 km de Paris, dans l'océan Indien, Marine Le Pen poursuit sa visite à Mayotte avec un meeting en ce moment à Mamoudzou. Et à Mayotte, Marine Le Pen est en terrain conquis. En 2017, au premier tour de la présidentielle, la candidate du Rassemblement National avait obtenu sur l'île un score supérieur à sa moyenne nationale, battant même Emmanuel Macron au second tour dans quelques communes comme à Boué. Bouéni dans le sud, 65% des voix. Bouéni où s'est rendue notre envoyée spéciale Élodie Forêt pour voir si, 5 ans après, on plébiscite toujours autant Marine Le Pen.
En 2017, Lolou, 37 ans, poseur de canalisation, a voté
Marine Le Pen.
En 2022, il votera de nouveau
Marine Le Pen.
Tirant sur sa cigarette, Lolou explique son quotidien pour justifier son choix, dénonçant une immigration massive venue des Comores ou de Madagascar, avec comme conséquence une insécurité grandissante que nous décrit Abdallah, artisan menuisier.
Ceux qui travaillent, ils font des belles choses chez eux, sont volés, on ne dort pas bien.
Et Wallam, professeur, rentré depuis 2 ans de métropole.
Tu réveilles le matin, tu t'engages pour aller travailler, tu n'es pas sûr de ce qui va t'arriver.
Pour Wallam, le vote Le Pen serait donc la seule arme des habitants de Bouéni pour se faire entendre.
Ce vote de colère, une réponse au gouvernement que vous vous foutez de nous, ben on va se foutre aussi de vous.
D'accord avec ses voisins sur le constat, Boudji, la trentaine, salarié d'une épicerie, a lui voté blanc en 2017, doutant de la sincérité de Marine Le Pen.
C'est comme tous les autres. Elle va venir là, des beaux discours, ouais Mayotte, avec plein de colliers sur le cou. C'est des paroles.
Bougie, pas plus convaincu par Emmanuel Macron quant à Éric Zemmour, au discours pourtant similaire à la candidate RN sur l'immigration. À Bouéni, c'est une fin de non-recevoir. Entre méconnaissance et très grande méfiance, lui, il va nous mettre dans le même sac que les migrants.
Élodie Forêt, à Mayotte, à Bouéni, en Russie, à l'étranger, de nouvelles règles sanitaires drastiques vont imposer des examens médicaux approfondis. Les étrangers vont être soumis à des batteries de tests sanitaires dès le 29 décembre prochain. Toutes les personnes étrangères qui passent plus de 90 jours par an en Russie devront donc se faire dépister pour le Covid, mais aussi pour la tuberculose, la syphilis, le sida et les stupéfiants, des normes très contraignante qui inquiète la communauté d'affaires. À Moscou, Jean Didier Revoin.
Les centaines de milliers d'étrangers vivant en Russie devront bientôt se soumettre à toute cette série de tests médicaux approfondis. Ils devront de surcroît donner leurs empreintes digitales et fournir une photo biométrique aux autorités. Ces examens existaient déjà pour certaines catégories de travailleurs, mais le ministère de la Santé a décidé de les étendre à tous les étrangers, même ceux qui ne travaillent pas, et à leurs enfants de plus de 6 ans. De quoi doucher l'enthousiasme de toute personne désireuse de travailler en Russie, ce qui a suscité la protestation des milieux d'affaires étrangers auprès des responsables de l'économie et de la santé. Les entreprises étrangères font déjà les frais des sanctions russes contre certains produits occidentaux et de plusieurs procès controversés contre des entrepreneurs. Les autorités, elles, se veulent rassurantes. Le porte-parole du Kremlin a précisé que le gouvernement était prêt à réagir en cas de problème, ce qui semble être déjà le cas puisque le ministère de la Santé a précisé hier qu'il ne serait pas nécessaire de faire ces examens tous les 3 mois, comme le prévoit pourtant un décret adopté en novembre. Moscou, Jean Didier Revoin, France Inter.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Et on en vient au football, et décidément, le foot ne s'en sort pas. On parle de chaos hier soir à Charletti, lors du 32e de finale de Coupe de France entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Match arrêté après des violences et de graves incidents en tribune. Quelques dizaines d'individus cagoulés, des supporters de l'OL s'en sont pris très violemment à une tribune où se trouvaient des spectateurs et des familles pour un match lors d'un vendredi soir avant Noël, comme l'écrit l'équipe. Il s'agit du 8e incident en football cette saison depuis le mois d'août. La ministre des Sports, Roxane Maracine et à nous demande à la fédération d'agir fermement. Le président de la fédération, Noël Le Graët, explique qu'il faut savoir qui sont ces fous et d'où ils viennent. Et ce matin, l'Olympique lyonnais interdit le déplacement de ces groupes de supporters jusqu'à nouvel ordre. Pour Jérôme Alonso, le consultant football de France Inter, il faut sévir et fort.
Les interdictions de stade à vie, c'est la seule solution. Vous vous rendez compte que c'est 5 ans aujourd'hui le maximum. En 2016, il y a des supporters du FC Metz qui ont jeté des fumigènes sur Anthony Lopez, le gardien de Lyon. Des images qui ont fait le tour du monde. Ils ont failli brûler vif un joueur. 2016. Ça veut dire qu'en janvier, là, les gars reviennent au stade. Vous imaginez? C'est incroyable, dit comme ça, quand même. Donc, il faut taper plus fort. Interdiction de stade à vie, pour les faits graves, comme en Angleterre.
Jérôme Alonso, ce matin sur France Info. Invité de ce journal, Vincent Duluc, une plume, un spécialiste du football, éditorialiste au journal L'Équipe. Bonjour, Vincent Duluc.
Bonjour.
On vient d'entendre Jérôme Alonso, vous signez un éditorial ce matin avec ce titre « Dehors ». Vous êtes d'accord avec Alonso, Jérôme Alonso ?
Oui, je suis d'accord avec Jérôme. Après, bon, il dit qu'en Angleterre, c'est à vie alors que c'est 10 ans. Mais bon, 10 ans, ce serait déjà ça. Et en tout cas, il nous met sur une piste, à savoir que les sanctions individuelles sont beaucoup plus efficaces que les sanctions collectives auquel on est confronté jusque-là, en tout cas dans le football.
Vincent Duluc, vous y étiez hier soir à Charletti. Même des femmes ont été frappées à coups de poing, à coups de ceinture?
Mais en fait, on a vu un peu des images dans la nuit et ce matin qui nous permettent de retracer un peu l'ordre des choses. Alors effectivement, il y a eu une dizaine de supporters, dont ne sait quel club, dont ne sait où, qui ont commencé par attaquer le haut du parquage lyonnais. Et en retour, le parquage lyonnais a attaqué à peu près tout le monde. Donc voilà, on est au cœur des scènes de hooliganisme qui existaient dans le football anglais des années 80. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la violence, on est dans le hooliganisme, on est dans quelque chose qui concerne pas seulement l'idée des supporters, mais qui concerne en fait le fait que ces supporters-là se sentent plus liés à leur groupe de supporters qu'à leur club, en fait. Ils sont beaucoup, ce qui les définit, c'est justement le lien à leur groupe, à leur association et pas celui du club. Ce qui fait que sans arrêt, ils sont sans arrêt dans une logique de guérilla dans les stades, et c'est ça qu'il faut absolument stopper, parce que ça devient complètement insupportable. Vous l'avez dit en préambule, c'est le 9e incident depuis le début de la saison, et aujourd'hui, il faut dire les choses, le football français est le football européen le plus gangréné par la violence.
Alors, Vincent Deluc, donc 9e incident depuis le mois d'août, hein, c'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe dans le football par rapport à d'autres sports? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un problème d'éducation de la part des familles, de la part des entraîneurs, peut-être de notre part, à nous, des commentateurs?
Non, parce que sûrement pas de la part des entraîneurs, parce qu'au contraire, ce sont eux qui éduquent les joueurs. Ce sont eux deux, ce sont tous les bénévoles qui chaque semaine donnent un cadre à des joueurs qui n'en ont pas forcément dans leur vraie vie, ni dans leur vie familiale, ni parfois dans la vie scolaire. Donc le football, de manière globale, je pense, c'est plus un vecteur d'équilibre dans la société qu'un vecteur de déséquilibre et de violence. Mais en revanche, effectivement, c'est le sport le plus populaire, c'est le sport le plus universel, c'est le sport qui a le plus de public. Et forcément, dans une atmosphère sociale extrêmement tendue, on va dire depuis les gilets jaunes à peu près depuis 3 ans, on voit bien que la violence virtuelle a quitté les réseaux sociaux pour devenir de la violence réelle dans les rues et désormais dans les stades.
Une partie des tribunes sont le reflet de la société française, selon vous.
Mais en tout cas, ces violences-là, oui, je pense que les violences de la rue et les violences sur les réseaux sociaux, on les retrouve aujourd'hui dans les stades. Effectivement, il n'y a plus de limite. Et donc, c'est le neuvième incident. Depuis le début de la saison, on dit ça peut pas continuer comme ça. Et puis ça continue parce que les mesures sont pas prises, parce qu'il y a une illusion de la part et du gouvernement et des responsables de la Ligue et de la Fédération qu'une sanction collective va être dissuasive, alors qu'il n'y a que des sanctions individuelles qui peuvent l'être. Il faut traquer les responsables. Il y a des caméras dans les stades, il y a une loi qui existe. Il faut que les clubs aient le courage politique et financier de traquer ses supporters et de les mettre dehors.
Comment les clubs, Vincent Duluc, je parle aussi de la fédération et du ministère, on peut encore s'accommoder de voir des joueurs de football qui tirent des pénaltys protégés par des boucliers anti-émeutes, qui tirent des corners, pardon, pas des pénaltys, par des boucliers anti-émeutes. C'est très fréquent, on voit ça tous les week-ends.
Alors on ne voit pas ça tous les week-ends dans tous les stades, Dieu merci, mais on le voit effectivement assez régulièrement. Ouais. Ce sont plus des filets que du bouclier anti-émeute, mais de toute façon, c'est la même chose. Il y a effectivement une banalisation de la violence ordinaire qui fait que le curseur, se déplace insensiblement et qu'effectivement, au début, on trouve que c'est pas grave parce que c'est des boulettes de papier, puis après, c'est une bouteille, puis après, ça peut être n'importe quoi. Et c'est ce qu'il faut obtenir, c'est ce à quoi il faut tendre, c'est rendre le terrain absolument tabou et le sacraliser. Et sanctionner tous les projectiles qui viennent des tribunes, que ce soit une boulette de papier ou une bouteille.
Ou une bouteille.
Sanctionner de la même manière les gestes qui touchent un joueur ou ceux qui ne le touchent pas.
Vincent Duluc, merci beaucoup, éditorialiste au journal L'Équipe. Merci à vous. Et pour ne pas rester sur cette note un peu sombre dans le sport, on va prendre de la hauteur et de la fraîcheur au Grand Bornand, en Haute-Savoie, avec la Coupe du Monde de biathlon. Pas de podium pour les Français hier, au deuxième jour de la Coupe du Monde. C'est le Norvégien Johan Bø qui a remporté le sprint. Quentin Fillon-Maillet échoue au pied du podium. Il est quatrième. Bonjour Jérôme Val, en direct du Grand Bornand.
Bonjour Frédéric.
Aujourd'hui, poursuite homme-femme et on attend que les Français confirment.
Exactement, et on est en plein dans la poursuite féminine, à mi-course maintenant dans ces 10 km à parcourir, et une Française est en embuscade, Julia Simon. Elle était pourtant partie en 13e position tout à l'heure au départ, et elle a remonté les places petit à petit, les secondes, elle les a grappillées. Julia Simon actuellement 5e à 25 secondes seulement de celle qui mène la course, la Suédoise Anna Åberg, et surtout un sans faute au tir. Vous savez, au tir ici dans cette poursuite, c'est rédhibitoire si vous faites une faute. Il y a 4 séances de tir. Il y a 20 cibles à atteindre. Une faute, c'est un tour de pénalité. 150 mètres à parcourir et donc des secondes qui sont perdues pour les concurrentes. Mais Julia Simon, pour l'instant, fait très très bien le travail. Et à suivre, évidemment, la poursuite masculine. Et là encore, des chances de médaille pour les Français qui vont être assez impatients d'évoluer devant le public. Vous l'entendez peut-être derrière moi. C'est juste la folie ici au Grand Bornand. Il y avait 10 000 personnes hier. Deux fois plus aujourd'hui. 20 000 personnes dans la tribune. Et partout au long de la piste, c'est juste un spectacle fascinant ici au Grand Bornand.
Jérôme Val, merci, en direct donc du Grand Bornand. On termine avec le choix culturel et un magnifique livre d'art pour nous faire découvrir un groupe d'artistes turcs qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont choisi Paris pour poursuivre leur carrière de peintre. Ils ont activement participé à la vie artistique des années 50 et 60 dans la capitale française. Paris était encore à l'époque la capitale internationale de l'art et attirait des artistes du monde entier. Et c'est cette effervescence que nous fait revivre cet ouvrage à travers 11 artistes venus d'Istanbul, Isabelle Pasquier. Bardi.
En 1946, grâce à deux expositions, Paris découvre la créativité de jeunes artistes turcs qui ont quitté le Bosphore pour les ateliers et les cafés de Montparnasse. Des artistes qui vont participer à ce que l'on appelle la seconde école de Paris, aux côtés d'Artung, Soulages ou Vera da Silva. Entre Orient et Occident, avec une extrême sensualité des formes et des couleurs, ils vont inventer un langage pictural tourné vers l'abstraction. Ils s'appellent Albert Bitran, Selim Turan, Abidine Dino ou Nejat Devrim, avec ses sublimes jardins abstraits de Saint-François d'Assise. Deux femmes dans ce groupe, Farel Nissa Zed et Tiragé Dickmen, figures charismatiques de cette avant-garde artistique. Clotilde Scordia, auteur d'Istanbul-Montparnasse.
Certains sont abstraits, d'autres sont figuratifs, comme Fikret Moala, connu pour ses scènes de café, la vie parisienne. Et puis les autres sont abstraits. Au départ, ils veulent abandonner toute référence à l'art turc. Ils inventent un langage plastique qui leur est propre. Je pense à Farel Nissa. Elle est totalement singulière. Elle était traversée par la poésie, par un certain lyrisme. Et elle a une vie absolument extraordinaire, parce qu'en seconde noce, elle épouse l'émir Zeyd.
Istanbul, Montparnasse remet en lumière ces artistes turcs qui à Paris ont écrit une page très inspirée de l'histoire de l'art.
Isabelle Pasquier, le temps.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Large ensoleillement aujourd'hui sur un bon 70% du territoire. Selon l'ombre au tableau, les grisailles et même parfois les brouillards qui risquent fortement de persister, en particulier à proximité de la Garonne, dans le Val-de-Saône, sur le nord de Rhône-Alpes et le long de la frontière belge. Le vent de secteur est sera assez sensible près de la Manche et sur les Caps Corses. Les températures maximales vont rester basses dans l'est et dans le centre-est, avec 4 à Lyon et à Mulhouse, 5 à Nevers et à Besançon. Il est prévu 8 à Rennes et Rouen, 9 à Lille et Paris, 12 à 13 dans le quart sud-ouest et 14 à 16 entre Perpignan, Nice et Bastia. Demain, persistance d'un temps calme, souvent très gris au nord de la Loire. Dans la moitié sud, le soleil va s'imposer après la levée des brouillards, tenaces dans les vallées et souvent givrants sur les régions centrales.
Jean-Michel Golinski de Météo France.